Au menu de notre club des têtes au carré aujourd'hui, les vibrations de nos cordes vocales. Un documentaire pas ordinaire sur le mariage pour tous et puis une nouvelle piste sur la recherche de vie extraterrestre. Je vous présente mes invités dans un instant. À la une de la science, la prouesse de chercheurs américains qui ont réussi à greffer des cœurs de porcs chez des babouins avec une durée de vie de 2 ans et demi. Cette technique de greffe d'une espèce vers une autre pourrait peut-être un jour être appliquée à l'homme et sauver ainsi des milliers de vies. On en parle dans un instant. Stéphanie Texier est aux commandes de cette Tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par François Mercier.
La Tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
La voix, le mariage pour tous, les vies extraterrestres dans notre club. Donc aujourd'hui, avec moi en studio, le professeur de chant Raymond Viré, la sociologue Irène Théry, le réalisateur Mathias Théry. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue. Et puis par téléphone, l'astrophysicien Franck Celsis. Bonjour à vous.
Bonjour.
Franck Celsis, la meilleure façon de trouver de la vie quelque part dans l'univers, c'est donc apparemment maintenant d'aller chercher de petites étoiles qu'on appelle les naines rouges.
Bien, la meilleure façon, c'est sûrement déjà de trouver des planètes qui peuvent en abriter. Et autour de ces naines rouges, on sait qu'il y a beaucoup de planètes et que nos instruments sont capables de les voir. Donc c'est une piste très intéressante.
Et vous nous expliquerez pourquoi justement les chercheurs se lancent sur cette nouvelle piste. Raymond Viré, qu'est-ce qu'avant tout une bonne voix ? Une belle voix, qu'est-ce que c'est ?
La voix, c'est le premier rapport au monde. La voix est en nous et elle n'est déjà plus... Quand on l'entend, elle n'est plus en nous. C'est ça, le complexe de la voix. Mmh. La voix, c'est le reflet donc, de la personnalité. C'est le rapport à l'autre. C'est extraordinaire puisque cette voix, l'enfant, dès qu'il vient au monde, la sort. Il a d'instinct ouvert sa bouche. Il a d'instinct gonflé ses poumons. D'instinct également, il a descendu son diaphragme. Il a posé cette voix le plus bas possible. Je dis toujours à l'intérieur de l'anus, si vous voulez, parce que le plus bas possible entre les jambes, quoi.
Et ça, il sait le faire.
Parce sait le faire.
Et on l'oublie au fil de la vie, après, parfois.
Et mon travail, c'est justement de vous apprendre
à retrouver
ce cri primal.
Ouais.
Son extraordinaire qui atteint le contre-contre-fa. Vous m'arrêtez, hein, parce que là, autrement...
on a quasiment commencé le dossier déjà avec vous. Hein.
Ça veut dire. Et ce contre-contre-fa, c'est l'octave au-dessus du contre-fa de la flûte enchantée de la Reine de la Nuit.
C'est ça. Donc il est très fort, le bébé, sans le
savoir.
Il
est très fort. Et nous ne sommes rien. Mmh. Les adultes, ils ne savent plus rien. Non, à vrai dire, dès l'âge de 7-8 ans, ils n'ont plus cette respiration costodiaphragmatique.
Allez, Trouver votre voix, c'est un livre chez Albin Michel, Raymond Viré. On en parle avec vous dans quelques minutes. Irène et Mathias Théry, vous incarnez dans un documentaire qui sort en salle, la sociologue et l'ourson, cette histoire au fond du débat autour du mariage pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment que la société française est enfin décrispée autour de cette question, Irène Théry ?
Elle est en train de se décrisper.
Oui.
Elle a été peut-être artificiellement crispée en partie dans l'année 2012-2013.
Mmh.
Je pense que effectivement, le simple fait qu'il y ait ces milliers de mariages, le temps qui passe... Le fait qu'on découvre que rien ne s'est écroulé et que le monde continue à tourner, les choses se décrispent. En tout cas, c'est vrai que le film de Mathias et Étienne veut contribuer à un débat apaisé.
Oui, et c'est le cas pour vous, Mathias Théry, aujourd'hui ? On a retrouvé un peu de calme sur cette question ?
On a retrouvé du calme. En tout cas, nous, avec ce film, on essaie de faire une relecture de cette période aussi. Le film se passe pendant. On est au cœur. On est à l'époque pendant, mais en essayant de donner la voix, la parole à Irène, qui luttait aussi à ce moment-là pour se faire entendre.
Ouais, c'est un documentaire en tout cas très original, avec des peluches, des marionnettes, des bouts de carton, puis des images aussi, évidemment, pour reconstituer une année de discussion jusqu'au vote de la loi de ce mariage pour tous. On en parle avec vous dans la première partie de l'émission, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
À l'hôpital de Grotescure au Cap, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, une greffe de cœur a été réalisée. Son bénéficiaire, un épicier de 54 ans, Louis Vachkanski, parvenu au terme d'une maladie cardiaque inguérissable. Dans sa poitrine bat désormais le cœur de Dany Darval, une jeune fille de 20 ans, tuée dans un accident d'auto. En quelques heures, le monde connaît le nom du chirurgien sud-africain qui a tenté cette opération de la dernière chance, Christiane Barnard.
Et un nouveau pas vient d'être franchi des décennies plus tard avec des chercheurs américains qui ont publié cette semaine dans la revue Nature Communication des résultats très prometteurs sur des expériences de greffe d'organes d'une espèce à une autre. 5 greffes de cœur de porc génétiquement modifiés ont donc été réalisées sur des babouins avec des records de longévité des greffons. Et selon les auteurs de cette publication, les xénogreffes pourraient ainsi sauver des milliers de vies chaque année. Bonjour Denis Glotz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes chef du service de néphrologie et transplantation rénale à l'hôpital Saint-Louis à Paris. À quoi correspond la xénotransplantation? Quelles sont les différences avec une greffe classique?
La xénotransplantation consiste à greffer un organe d'une autre espèce, donc dans le cas particulier à l'homme. Les espèces les plus proches, c'est bien sûr nos cousins, les primates. Mais la plupart des primates sont des espèces protégées. Ils sont très difficiles à garder en captivité. Il y a beaucoup de gens qui les considèrent comme trop proches de nous pour pouvoir les utiliser pour des expérimentations animales. Et puis, comme l'homme, ils ne font qu'un bébé de temps en temps. Et donc la recherche en xénotransplantation s'est orientée vers quelqu'un, vers une espèce qui est un peu plus lointaine, mais beaucoup plus facile à élever, qui fait des bébés très rapidement et en grand nombre, à savoir le porc. D'autant que, si vous êtes comme moi, vous avez régulièrement des produits dérivés du porc dans votre assiette, et donc ça ne soulève pas les problèmes éthiques que poseraient les primates.
Alors comment ils ont procédé exactement, ces chercheurs américains, pour réussir cette greffe d'une espèce à une autre?
Alors, c'est un nouveau pas en avant. Votre extrait sonore est magnifique, mais en médecine, il y a rarement des grands soirs, des grands bonds en avant, mais on avance petit à petit. La greffe cardiaque avait été mise au point par Norman Shumway aux États-Unis, et c'est Christian Barnard qui a fait la première. De la même manière, quand on s'est attaqué à ce problème, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait un rejet qui survenait dans les minutes suivant la transplantation, qui était dû à l'existence d'anticorps dirigé contre un antigène qui est présent chez le porc et pas chez nous, qui s'appelle l'antigène Gal. Donc on s'est dit, c'est extrêmement simple, on va invalider ce gène, faire ce qu'on appelle un knock-out, et tout sera réglé. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte malheureusement que rien n'était réglé, puisque le rejet passait par d'autres voies. Et donc on a progressé petit à petit, on s'est rendu compte que ce rejet impliquait des phénomènes de coagulation, donc les porcs qui ont servi dans cet exemple ont été modifiés deux fois. D'une part, on a supprimé donc cet antigène, et d'autre part, on a rajouté un modulateur de la coagulation permettant d'éliminer les thromboses. Ça avait été déjà fait, mais on se retrouve dans le meilleur des cas, dans le même cas que d'une transplantation d'un organe humain chez un autre homme, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'immunosuppression. Et le pas en avant, là, c'est qu'ils ont trouvé une combinaison immunosuppressive qui paraît ne pas être trop toxique, et en tout cas beaucoup moins que celle qui avait été précédemment utilisée.
Mais Denis Glotz, là, les babouins ont reçu le cœur des porcs, vraiment, ou pas?
Alors, oui et non. C'est-à-dire, oui, bien sûr, ça a été fait, mais... Et on n'a pas fait ce qu'on appelle une transplantation orthotopique, c'est-à-dire qu'on n'a pas retiré le cœur du babouin pour mettre celui du porc. C'est-à-dire que c'est pas une transplantation vitale dans le sens où le babouin vivait avec son cœur à lui et on a greffé ailleurs le cœur de ses porcs. Ce qui est un modèle beaucoup plus facile, mais qui pose un certain nombre de questions, à savoir est-ce que ce cœur qui survit serait capable d'assurer sa fonction.
Et c'est ça, donc ça c'est un peu la limite quand même de cette prouesse.
Oui, absolument. C'est des modèles qu'on connaît, des cœurs, ce qu'on appelle des cœurs non travaillants. C'est intéressant, ça permet de progresser, mais ça ne répond pas à la question fondamentale. Est-ce que ce cœur peut effectivement servir une fonction?
Bon, et ça a marché pendant 2 ans et demi, c'est ça? Ce qui est aussi là un record dans ce domaine?
Oui, c'est très intéressant parce que ça veut dire que pendant 2 ans et demi, il n'y a pas eu d'infection majeure, il n'y a pas eu de cancer, il n'y a pas eu de lymphome. Et donc ça veut dire, comme le soulignent les auteurs, que ce traitement immunosuppresseur est potentiellement applicable à l'homme.
Bon, mais il reste quand même beaucoup de chemin à faire, c'est ça, dans ce domaine, pour pouvoir un jour peut-être imaginer se servir d'un cœur de porc pour passer à l'humain, parce que c'est ça aussi la perspective?
Absolument. Il faut rappeler que... tous les jours dans le monde, il y a des gens qui meurent en attente d'un greffon et les porcs pourraient nous donner une quantité quasi limitée de cœur, mais aussi de reins. qui permettrait de sauver beaucoup de gens.
Oui, on peut imaginer que d'autres organes soient concernés justement par cette avancée technologique. En tout cas, Denis Glotz, merci pour ces explications. Et puis, il faut laisser à la science le temps aussi de faire son travail. Mais c'est une étape importante, hein, on l'a compris, qui vient d'être franchie. Merci à vous, Denis Glotz. Bon week-end.
Bon week-end à vous.
Au revoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité. Fumer modifierait la biodiversité bactérienne de notre bouche. C'est ce qu'affirment les chercheurs new-yorkais dans une étude parue dans l'International Society for Microbial Ecology, après avoir examiné la composition bactérienne chez 1200 personnes fumeuses et non fumeuses. Ils ont constaté une différence importante entre ces deux groupes. Certaines populations bactériennes étaient moins représentées chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Un déséquilibre microbien, également appelé dysbiose, qui pourrait être à l'origine chez les fumeurs de certaines infections des gencives ou encore des caries dentaires. Après des années de séquençage des génomes de néandertaliens, une équipe internationale de chercheurs a trouvé que le chromosome d'un mâle de Néandertal était différent de celui de l'homme moderne, même si les Néandertaliens et Homo sapiens se sont croisés plusieurs fois au cours des 100 000 dernières années. Cette étude rapporte l'absence d'ADN du chromosome Y néandertalien dans nos chromosomes Y d'Homo sapiens. Ces résultats suggèrent que les femelles humaines modernes et les hommes de Néandertal n'étaient pas totalement compatibles. D'après l'étude du génome, Néandertal avait des mutations dans 3 gènes pouvant provoquer une réponse immunitaire chez les femmes enceintes, entraînant alors un rejet des fœtus mâles. Et puis prenez garde à leurs morsures. Des chercheurs américains ont étudié la puissance et la vitesse de la morsure d'un groupe d'araignées d'à peine quelques millimètres. Chez 4 des espèces étudiées, la vitesse de fermeture des crochets est inférieure à une demi-milliseconde et la force alors déployée est équivalente à 200 fois celle qu'utiliserait un homme pour sauter sur place. D'après leurs résultats publiés dans la revue Current Biology, ces araignées posséderaient une sorte de bouton pression similaire à un piège à souris qui permettrait de relâcher donc une grande quantité d'énergie d'un seul coup dans les crochets pour capturer leur proie à coup sûr. La vidéo de la morsure est même en ligne sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, c'est le club dans un instant. Three years of sunshine, no winters I recall, but you now. My whole skin to find it. It's Love, Get Well Soon à l'instant.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Allez, trois sujets aujourd'hui. Le mariage pour tous avec une sociologue et son ourson. Un livre pour nous permettre de trouver notre voie. Et puis une nouvelle piste pour localiser de la vie extraterrestre dans l'espace. Mes invités, donc Raymonde Viret, vous êtes professeur de chant. Et donc ce livre qui paraît chez Albin Michel, Trouver votre voie. Ce sera dans la troisième partie de l'émission. Irène Théry, vous êtes sociologue du droit, spécialiste de la famille et de la vie privée, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes avec Mathias Théry, votre fils, cinéaste, documentariste, co-réalisateur. Donc Mathias, avec Étienne Chailloux de ce film documentaire La sociologue et l'ourson qui vient de sortir dans les salles. Et puis Franck Celsi sera avec nous en ligne depuis Bordeaux. On l'a entendu tout à l'heure, il est astrophysicien chargé de recherche au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et j'attends vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Des peluches, des marionnettes, des bouts de carton, mais évidemment aussi des images pour reconstituer les discussions en famille et au sein aussi de l'Assemblée nationale autour du mariage pour tous. C'est donc ce documentaire particulièrement original et réussi que vous signez Mathias Théry. En voici un premier extrait.
Allô Mathias.
Allô maman, ça va ?
Je suis dans le métro et j'ai plus que 10% de batterie.
Alors c'est juste pour te dire que ça y est, le film est fini.
Ah, c'est super. Ah, ça, je vais dire ça à ton père, il va être aux anges.
Et donc, maintenant, je peux t'en parler un peu plus.
Oui.
On a fait une bonne partie du film en utilisant les discussions qu'on a eues tous les deux au téléphone.
Ah bon ?
Ouais. Et ensuite, on a utilisé le son de ces enregistrements et on a recréé des scènes avec des jouets et des peluches.
On boit papa.
Ah là là.
D'ailleurs, moi aussi, je suis devenu une peluche.
Ah bon ?
En gros, on a essayé de comprendre pourquoi tout le monde en France s'est engueulé pendant un an sur le mariage homo.
Voilà, automne 2012, printemps 2013, un an donc d'un jeu de questions-réponses entre vous, Irène et Mathias Théry, alors que la France se déchire autour des débats sur le projet de loi du mariage pour tous. Alors, il y a plusieurs choses dans ce film, Mathias Théry. D'abord, le travail d'une sociologue, l'évolution de la famille, un visage de la France aussi, à un moment particulier de ton histoire, et puis aussi quand même votre propre relation avec votre mère. Il y a plein d'entrées différentes dans ce documentaire.
Oui, quand avec Étienne, on réfléchissait à l'écriture du film, mais aussi au montage, on travaillait par strate. Et c'est-à-dire que même quand dans notre atelier, on avait des séries de post-it pour voir comment est-ce qu'on tenait chaque fil qui traverse le film comme ça, et on les mettait les uns au-dessus des autres comme des lignes,
oui.
Et on les faisait travailler comme ça. Donc en effet, il y a à peu près tout ce que vous avez décrit. Et on va dire que l'idée première était quand même d'observer un pays et son évolution, un pays en changement. On savait qu'on était au moment de la loi sur le mariage pour tous, au moment où la société actait, la société et la législation actaient le changement, mais tout le film s'emploie à observer le changement du passé, des siècles précédents, etc., pour comprendre qu'on vit en permanence dans un monde en mouvement.
Donc ça, c'est la première histoire, on va dire, mais il y en a une deuxième, qui est celle de votre mère aussi, hein, et de son travail et de sa science de la sociologie autour de ces questions de la famille.
Ouais, c'est le portrait d'une intellectuelle, et qu'on a voulu faire comme elle ne l'aurait pas fait, c'est-à-dire qu'on a essayé d'aller chercher toute la parole que le grand public n'a pas, c'est-à-dire la parole privée, celle qu'elle ne donne pas d'habitude, et donc pour éviter aussi nous-mêmes, nous avions du mal à comprendre tous les termes sociologiques dans ces conférences qu'on trouvait passionnantes. Mais
pourtant, vous étiez bien placé pour savoir de quoi elle parlait, mais.
Mais du coup, on a préféré trouver cette stratégie d'enregistrer nos conversations téléphoniques,
c'est ça,
pour savoir comment est-ce qu'elle explique les choses à ses proches et à son fils.
Irène Théry, c'était quand même très gonflé, hein, parce qu'il y a quand même une intimité qui est là aussi dans le film.
Ce qui était gonflé, c'est de ne pas me l'avoir dit.
Ouais.
Puisque effectivement, vous avez passé un extrait de la bande-annonce et c'est une vraie conversation entre nous. Le film est terminé. Mm-hmm. On est déjà 2 ans et demi plus tard et c'est là que je découvre les marionnettes, les extraits dans notre vie privée. Mais en effet, ce film, il m'a conquise tout de suite. Heureusement qu'on ne m'a pas demandé mon avis. Je crois que j'aurais refusé qu'on entre dans notre intimité, par exemple.
Ouais.
Mais il m'a convaincue parce qu'en effet, c'est un film sur le changement. Moi-même, j'ai changé. J'ai pas toujours été favorable au mariage de même sexe. Enfin, il y a 17 ans maintenant.
Ouais.
Dans le film, on a un débat sur la gestation pour autrui.
Ouais.
J'explique.
Là aussi, vous avez changé d'avis.
Mais bien sûr. Et pas seulement moi. Il y a que mon mari qui n'a jamais changé
d'avis.
Hein.
Il n'est pas là pour se défendre, quand même.
Non. Et donc, je pense que c'est un film aussi qui à l'espoir que des gens changeront. Par exemple, il y a eu un débat très difficile sur la procréation médicalement assistée et son ouverture aux couples de femmes. Peut-être, en voyant le film, en replaçant dans le contexte, certains spectateurs pourront eux-mêmes reconsidérer leur point de vue. En tout cas, c'est l'espoir du film. C'est pas un film qui est fermé sur un débat terminé, mais qui ouvre sur un débat et des changements à venir.
Et c'est vrai que cette forme, elle est très particulière. Je parlais donc de ces peluches, de ces marionnettes, même si évidemment on a des images aussi. On suit votre mère à l'Élysée, par exemple, ou à l'Assemblée nationale. Donc il y a ce mélange, mais qui est extrêmement bien réussi. C'est-à-dire que dès le départ, on accroche sur un sujet qui, pour le coup, dont on pourrait penser qu'il allait nous replonger dans des choses un petit peu difficiles, pas forcément agréables à regarder. Et là, on est dans une histoire très originale, drôle aussi, et émouvante.
Ouais, ça a été... En effet, le travail de montage des séquences marionnettiques et des séquences avec les humains a été un travail assez compliqué. Et même sur tout le film, on va dire, la complexité du travail a été de faire que le spectateur ne se rende pas compte que c'était compliqué. C'est-à-dire que on veut faire un cinéma simple aussi, dans le sens grand public, que ça intéresse tout le monde, que ce soit pas réservé ni à ceux qui sont spécialistes de la question, ni aux passionnés du documentaire, faire un film sociétal sur notre société qui débat. Et donc, les marionnettes amènent un ton qui est complètement différent. On a conscience d'avoir expérimenté une nouvelle forme. On n'avait jamais vu encore de marionnettes documentaires. Et ça nous permet aussi de prendre du recul sur notre société et de l'observer un peu à distance.
C'est vrai. Et on avait besoin de ça pour ce débat.
Moi, j'ai eu l'impression qu'ils avaient pris ma sociologie au sérieux. C'est pas du tout une leçon de sociologie, puisqu'elle est, elle est très simplifiée.
Oui, il n'y a pas de cours magistral. C'est pas ça l'idée du tout.
Voilà. Mais en même temps, ils ont gardé l'essentiel de ce que j'ai essayé de dire en vain. Très souvent à ce moment-là, c'est-à-dire vous ne pouvez pas comprendre le mariage pour tous ou les familles homoparentales si vous continuez à séparer les homosexuels des autres personnes ou les familles homoparentales des autres familles. Et donc il faut réintégrer ces familles dans l'évolution de toutes les familles. Chacun est concerné. Dans notre famille, on a débattu. Dans toutes les familles, on a débattu. Et beaucoup nous disent, c'est ça qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, à la sortie du film, je vais emmener mes enfants. Alors c'est pas un film pour les enfants, je dirais c'est un film pour les adultes.
Bah moi j'ai plutôt des gens qui m'ont dit je vais emmener mes parents.
C'est un film pour les adultes de 9 à 99 ans. Et vraiment qu'on nous dise c'est très pédagogique, ça explique beaucoup de choses, ça calme les choses sans les euphémiser. Moi je félicite Mathias en public.
Alors justement, on sent d'ailleurs ce lien aussi entre vous, évidemment. Ça, c'était quelque chose qui s'est construit aussi au fur et à mesure du tournage et du montage, ce lien qu'on voit aussi entre le fils et sa mère, même si évidemment le titre parle de lui-même.
Alors au début, plutôt on était plutôt focalisé sur les conversations téléphoniques, mais on s'est rendu compte que dans ces conversations téléphoniques, le ton et l'échange qu'il avait entre nous racontait aussi quelque chose sur la famille. Et donc, bien sûr, le spectateur observe aussi un peu qu'est-ce que c'est que d'être en famille, quoi. Donc, il y a des parce que ce qu'on comprend en observant la famille dans ce film, c'est que la famille, c'est pas une histoire d'idées, c'est une histoire de liens. C'est une histoire de relations entre les gens. Qu'il faut aller voir les relations entre les gens pour comprendre comment s'articule tout ça. Et on a joué de cette relation pour en faire une écriture de cinéma. Et voilà. Donc il y a des moments où on voit qu'on n'est pas d'accord. Il y a des moments où on voit que on fonctionne pas pareil. On veut raconter la même chose, mais on veut pas le raconter pareil. C'est un peu ça ce film. Irène veut le raconter avec son discours de sociologue, et nous on veut le raconter avec nos mises en scène de cinéma.
Et le film évolue aussi sur la question de la GPA, par exemple. C'est un sujet que vous ne souhaitiez pas forcément aborder vous dans le film. Irène Théry vous dit mais si, c'est très important. Elle vous explique pourquoi, et on comprend effectivement pourquoi c'est important de l'intégrer dans cette question du débat.
Parce que c'était ce qui était le plus diabolisé dans ces débats, au point qu'on n'osait même plus prononcer le nom, alors que pour ma part, j'ai rencontré des gestatrices, comme je le raconte dans le film. Je connais très bien des enfants nés de gestation pour autrui, et je trouvais quand même terrible qu'on les diabolise, qu'on présente ces enfants dans des chariots de supermarché, des choses qui étaient vraiment très très stigmatisantes. Et donc le film prend la défense de ceux qui ont été stigmatisés et ouvre le débat. Il ne le ferme pas, la gestation pour autrui, le débat est devant nous, mais il faut l'avoir normalement, avec des arguments, avec des faits, avec la connaissance des réalités, et pas avec des préjugés, des diabolisations.
Et bien justement, un extrait et une idée de ces idées échangées lors des débats avec Christiane Taubira, qu'on va entendre dans cet extrait.
Il faut l'homme et la femme, le père et la mère, pour engendrer, guider l'enfant sur le chemin de la vie. Oui, c'est une loi de la nature, une loi qu'aucune communauté humaine ne peut abolir.
Vous revenez à l'époque de Lamarck, avec l'évolutionnisme. Vous revenez à l'époque de Mendel. Il y a une fascination sur le naturel, sur le biologique, sur le génétique. Mais il y a longtemps que les Lumières ont imprégné la réflexion philosophique, scientifique. Il y a longtemps qu'on sait ce qu'est l'environnement social. Et puis vous, vous êtes là, vous en êtes encore à la vénération des lois de Mendel. Mendel qui travaillait quand même sur les petits pois.
Voilà, vous avez dû avoir le choix, Mathias Théry, hein, parce que ça a été vraiment mais des répliques de Christiane Taubira pendant tous les débats, ouais. Extraordinaires quand même. Hein.
Énormément, oui.
C'était une des grandes figures, c'était la grande figure
mais
quand
oui.
même, hein, Irène Théry.
Le discours qu'elle a prononcé à l'ouverture des débats est un grand moment historique, parce que c'était la première fois qu'on avait l'impression qu'une personnalité politique prenait en charge et incarnait la dimension du souffle de l'histoire et qui était là et qui est arrivé, et je crois que ça a été très important pour tous les députés, que ça leur a donné du courage, ça leur a et pour tout le monde.
C'est une des rares voix qui s'est élevée au-dessus de la mêlée, vraiment, pour dire ce qu'on fait et, ouais. et on peut en être fier.
Et avec un lyrisme, un sens de la formule, on l'a entendu encore ici avec les petits pois de Mendel.
Alors, elle est drôle et lyrique à la fois,
ouais, c'est
ça. Et très précise en droit, très précise en droit,
ouais,
c'est important aussi.
Alors pour les auditeurs, il y a un rendez-vous exceptionnel, ce sera mercredi prochain au MK2 Quai de Seine à Paris à 20h, donc la projection de ce documentaire, avec, en présence... de Christiane Taubira. C'est la première fois qu'on va l'entendre s'exprimer. Hein.
Voilà. Donc, non seulement en présence, mais avec un débat avec elle, qui sera animé par Elisabeth Quin. Et on est vraiment très honorés qu'elle participe à cette soirée et qu'elle vienne effectivement répondre aux questions que nous nous posons, que nous lui poserons sur la façon dont elle a vécu ce débat et puis ce qu'elle pense aussi des discussions qui ont été ouvertes, qui ne sont pas terminées.
Absolument. Et donc, c'est mercredi soir, 20h, MK2 Quai de Seine. Prenez vos places à l'avance parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde pour assister à ces projection de la sociologue et de l'ourson. Pourquoi les homos ont eu envie un jour du mariage, Irène Théry ? C'est une des questions qui est posée dans le documentaire.
Mais c'est vrai, on peut se le poser, d'autant plus que moi j'appartiens à une génération où, c'est pas les homos, personne ne voulait se marier dans les années 70, qu'on soit homo ou hétéro. Je crois que le mariage a changé, tout simplement, qu'il était vraiment l'institution de l'inégalité entre les sexes, l'institution qui excluait, et le mariage a changé. Il est devenu libre, égalitaire, dissoluble de la commune volonté des partis, et il est devenu, comment dire, désirable. Et les homosexuels, comme les autres, ont pensé qu'ils pouvaient être désirables une fois qu'on était reconnu, ce qui était le cas du PACS. Le PACS a installé le couple de même sexe dans le droit et dans la société, qu'ils pouvaient être désirables de s'unir à la face du monde, je dirais, avec les siens, avec sa famille, avec ses amis. J'ai participé à des mariages absolument bouleversants et il n'y a plus aucune aujourd'hui lutte entre ceux qui choisissent l'union libre et ceux qui choisissent le mariage. C'est ça la nouveauté pour tous. Et je trouve formidable que ça soit possible maintenant.
Pourquoi cette crispation d'ailleurs typiquement française, alors que vous le rappelez là aussi chez nos voisins européens, ces débats se sont extrêmement bien placés.
Il y a eu de la crispation, chez nos voisins européens. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a surtout eu une formidable prise en main de la part de la communication de la Manif pour tous, des gens qui étaient contre le mariage. Et qui est un peu une première. C'est-à-dire des manifestations pour ces populations-là. C'était la première fois qu'il y avait un travail autour de la communication qui était très très impressionnant, très bien fait. Donc tout était organisé autour du fait qu'ils ressemblaient à ce qu'ils critiquaient, qu'ils étaient les amis des homosexuels, qu'ils faisaient des fêtes sur des chars. On le montre un petit peu dans le film.
Hein, avec Frigide Barjot.
Frigide Barjot, elle a designé ces manifestations, elle a fait que tous ceux qui n'osaient pas y aller se sont dit on peut y aller maintenant. Et puis tout était livré, les pancartes, les slogans. Ouais. Tout.
Il y a une scène formidable d'ailleurs, on voit un échange, vous êtes en train de vous faire maquiller, Irène Théry, donc vous êtes assise enfoncée dans votre fauteuil et vous avez Frigide Barjot qui est là prête à vous bondir dessus.
C'était
évidemment d'un point de vue
difficile.
Du cadrage, là
c'était
l'image est très bonne.
C'était un soir très difficile, il y avait une immense manifestation qu'elle avait organisée dans Paris. Ils avaient dit des choses qui pour moi étaient glaçantes. Ils avaient dit que le mariage allait détruire la famille, mm-hmm. qu'il allait amener à l'inceste, que les homosexuels voulaient mentir aux enfants. La campagne a été entièrement menée quand même sur des idées fausses, sur le fait que les lesbiennes, par exemple, prétendraient mm-hmm. que les enfants sont nés de leur lit, etc. Et la crispation, elle est beaucoup venue du fait qu'on a affolé les populations sur la procréation médicalement assistée. Mm-hmm. Hein, comme si l'enfant qu'on faisait à l'ancienne dans la meule de foin, c'était une personne, et l'enfant qu'on fait aujourd'hui quelquefois en laboratoire avec l'aide d'un donneur, c'était un produit. Voilà. Et donc toute cette rhétorique a été faite pour affoler, et aujourd'hui il faut revenir à la réalité, ce qu'essaye de faire le film.
Voilà. Il y a des moments vraiment où vous êtes déprimé, hein, vous le dites, Thierry, hein, parce que c'est tellement difficile de faire entendre et de faire avancer les choses.
C'était difficile, et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas désespérer, on peut reprendre le débat. Il y a eu quand même 130 médecins, je pense que vous l'avez dit dans cette émission, qui ont signé une pétition pour dénoncer l'immobilisme du droit bioéthique français, en particulier sur ces procréations médicalement assistées, qui ont dit qu'ils ont aidé des couples de femmes à faire des PMA à l'étranger. Donc il faut reprendre le débat rapidement et posément.
Voilà, avec ce documentaire, donc La sociologue et l'ourson, qui est aussi un objet pour l'histoire, parce que vous avez fait un travail formidable. Ouais, et donc on peut le voir dans 16 salles en France en ce moment.
Hein. Oui.
Donc évidemment, on va sur Internet pour avoir le cinéma le plus près de chez soi.
Exactement.
Avant peut-être d'avoir d'autres salles. Hein.
Ah bah c'est l'histoire de ces petits films indépendants. Mmh. Voilà, on commence avec peu et si les spectateurs sont au rendez-vous la première semaine, on a le droit de continuer.
Donc c'est maintenant qu'il faut y aller pour vous encourager et vraiment ça vaut le détour. Et puis donc mercredi soir, Quai de Seine MK2 en présence de Christiane Taubira. Voilà, vous restez avec nous, Irène et Mathias Théry. On va parler vie extraterrestre dans un instant et puis de notre voix.
Un jour les anges en ont marre qu'on reste sourd à leur mission. Alors avant qu'il soit trop tard, les anges blessés s'envoleront au même signal d'une sentinelle dans un même battement d'ailes. Un jour tous les anges rebelles rejoindront la vie éternelle. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'au-delà lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux. Un jour les anges en ont marre de se faire avoir, perdre leurs plumes, sans crier gare, sans faire de bruit, ils s'éclipseront dans la brume. Mais quand les anges disparaîtront, faudra faire sans leur protection. Qui donc y fera attention, eux qu'on prend pour un gang de pigeons. Ouais, un gang de pigeons. Cherche ce jour-là, vers l'au-delà lève les yeux. Si tu cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux. quand on reste trop silencieux, on ne sait même plus dire adieu.
Les anges avec Charles-Élie Couture sur France Inter.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Allez, dans la dernière partie de l'émission, on apprendra à bien respirer, à chanter librement, à parler sans s'épuiser pour comprendre ce que notre voix révèle de nous-mêmes avec Raymonde Viret, grand professeur de chant. Ce sera donc dans quelques minutes. En attendant, eh bien, on s'intéresse à la question des extraterrestres avec vous, Franck Celsis. Vous êtes astrophysicien chargé de recherche au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Est-ce que d'abord la question de la vie ailleurs est un sujet de recherche important aujourd'hui dans le monde pour les scientifiques?
Alors, je pense que c'est un sujet très croissant. La vie ailleurs, les origines de la vie, c'est quelque chose qui, même si c'est encore probablement assez lointain, on s'attend pas à avoir des réponses tout de suite. Mm-hmm. C'est quelque chose qui se concrétise par notamment la découverte de planètes assez similaires à la Terre et qui s'avèrent abondantes. Mm.
Il y a d'autres formes de vie ailleurs. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs? Ça, c'est une question ancestrale que se posent les hommes depuis donc très très longtemps. Hein.
Oui, ça c'est une question millénaire et on a souvent eu l'a priori de voir ailleurs dans le ciel ce qu'il y avait chez nous. La pluralité des mondes, c'est ça, c'est de se dire les étoiles ce sont des soleils et les autres planètes sont comme les nôtres. L'exploration du système solaire a montré que ce n'était pas vrai. Dans le système solaire, la Terre est la seule à abriter de la vie et on n'a aucune idée de savoir si l'émergence de la vie est un phénomène rare ou commun. Ça, c'est l'observation dans le futur qui nous le dira.
Alors justement, Franck Celsis, aujourd'hui, apparemment, une nouvelle voie est à explorer pour tenter de trouver quelque chose. Ce sont les naines rouges. Alors qu'est-ce que c'est exactement?
Alors ce sont des étoiles, donc il y a toute une diversité d'étoiles. Et les naines rouges sont les étoiles les moins massives, qui sont aussi les plus froides, les moins brillantes. Et c'est aussi la population d'étoiles la plus abondante dans la galaxie. Ce sont des étoiles qui font, disons, grosso modo, moins de la moitié de la masse du Soleil, mais représentent 80% des étoiles dans notre galaxie. Elles sont extrêmement fréquentes. Mmh. Et on sait maintenant qu'elles ont des planètes. La majorité d'entre elles ont des planètes et ont des planètes rocheuses telluriques.
Elles sont plus froides que notre Soleil aussi, ou pas?
Oui, elles sont plus froides, beaucoup moins lumineuses. Là où notre Soleil fait plus de 5000 degrés, pas loin de 6000, ces étoiles-là font plutôt, en surface, je parle,
oui,
surface des étoiles, font plutôt moins de 4000 ou 3000. Elles sont aussi beaucoup moins lumineuses. La luminosité est de l'ordre du pourcent de la luminosité du Soleil. Et donc les planètes qui vont avoir à peu près la même température que la Terre, et qui donc pourraient être habitables, vont se situer très proches de ces étoiles-là, parce qu'elles sont peu lumineuses.
Alors pourquoi justement on recherche du côté de ces naines rouges exactement? C'est la raison que vous venez de nous expliquer là, entre autres?
Alors on recherche pas particulièrement du côté de ces étoiles-là. C'est vrai que l'actualité, c'est que le programme de recherche d'intelligence extraterrestre, donc SETI, a un programme qui démarre et qui focalise sur ces étoiles-là.
Oui.
Même du point de vue des recherches sur les planètes en astrophysique, on s'intéresse pas plus à ces étoiles que d'autres, si ce n'est par le fait que c'est plus facile d'observer les planètes autour d'elles. Parce que ce sont des étoiles petites et peu lumineuses, c'est plus facile d'y trouver une planète petite comme la Terre. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on a pu se rendre compte que ces étoiles-là ont beaucoup de planètes et on a espoir de pouvoir les caractériser dans le futur avec des instruments à venir. Pour les étoiles qui sont comme le Soleil, détecter des planètes éventuellement habitables est beaucoup plus difficile, d'abord parce que les Soleils sont moins communs, donc ils sont statistiquement plus loin, mais aussi parce que ce sont des grosses étoiles par rapport aux étoiles M et qu'il est très difficile d'y trouver des planètes et une fois qu'on les a trouvées, de les caractériser. Donc les étoiles M, on sait qu'elles ont beaucoup de planètes, on sait que ce sont des étoiles abondantes et on sait que là où on trouve des planètes, on va pouvoir, dans les années à venir, les étudier, éventuellement leurs atmosphères, notamment avec le prochain télescope spatial James Webb qui sera lancé dans 2 ans.
Donc ce sont d'autres exoplanètes, hein. Ce sont des moissons de planètes qu'on espère pouvoir observer.
Oui, alors c'est pas tant le nombre, c'est ce qu'on a pu établir, c'est la fraction des étoiles. Donc on sait que la majorité des étoiles de ces naines rouges ont des planètes rocheuses.
Mmh.
Donc c'est énorme, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliards de planètes rocheuses similaires à la Terre dans la galaxie. Ça c'est une chose. Maintenant le Graal, ce serait d'en trouver une dans un système très proche du Soleil. auquel cas on pourrait pointer nos instruments pour l'étudier un petit peu plus. Ouais. Mais ce qu'on sait par ailleurs, c'est que les environnements autour de ces étoiles-là, sur ces planètes-là, bien que rien n'interdise qu'il y ait de la vie, ils seront extrêmement différents de ce qu'on a sur Terre.
Ah bon, ce serait quoi alors par exemple les différences majeures entre ces planètes et la nôtre ?
Alors les différences majeures, par exemple, c'est que si je plaçais la Terre autour d'une NM de façon à ce qu'elle ait la même température, eh bien, cette planète-là subirait des forces de marée très fortes, et ces forces de marée vont avoir tendance à synchroniser la période de rotation avec la période orbitale, de sorte que la planète va présenter toujours la même face à son étoile, comme la Lune le fait pour nous. La Lune nous présente toujours la même face. Mmh. Là, la planète présenterait toujours la même face à son étoile. Et ça, ça a des conséquences dramatiques du point de vue du climat. Et on pourrait se dire, bon, ben, c'est pas des endroits intéressants pour y chercher la vie. Mais en même temps, on fait de plus en plus d'études sur les climats potentiels que l'on pourrait trouver sur ces planètes. Et on s'aperçoit qu'en fait, une atmosphère pourrait très bien redistribuer la chaleur qui serait déposée que d'un côté et rendre les conditions habitables. Mais en tout cas, ce serait très très différent de ce qu'on a sur Terre. Ça, c'est un des aspects. Ce serait différent par encore beaucoup d'autres aspects.
Les conditions climatiques, ce serait quoi en quelques mots, Franck Celsis, alors ?
Ben, dans un cas comme ça, vous auriez un côté qui serait toujours éclairé et où toute l'énergie de l'étoile serait déposée. Donc ça générerait en fait des vents violents, aussi des grands mouvements ascendants et une énorme couverture nuageuse, beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, pour peu que cette planète aurait de l'eau, une grande humidité dans l'atmosphère. Mmh. Et du côté de nuit, il serait plus froid, l'eau se condenserait, mais néanmoins, si l'atmosphère est suffisamment épaisse, même ce côté qui serait dans une nuit permanente pourrait avoir des températures tout à fait habitables. Mais bien sûr, ce seraient des conditions très différentes. Il n'y aurait pas de saison non plus, parce que cette planète-là n'aurait pas d'obliquité. Leur axe de rotation serait perpendiculaire au plan de leur orbite. Donc, il n'y aurait pas d'été, pas d'hiver. Des conditions d'ensoleillement absolument constantes sur cette planète-là.
Et pourtant, peut-être donc des traces de vie grâce à ces naines rouges et ces planètes donc qui tourneraient autour. La découverte de vie ailleurs, Franck Celsis, c'est prévu pour bientôt ou il faut encore patienter là un petit peu, quelques décennies?
C'est surtout pas prévu, parce que si on la prévoyait, ça voudrait dire qu'on a un a priori sur la distribution de la vie dans l'univers, et que donc on ne serait pas à même de faire cette recherche de façon objective. Bon. Donc on va observer, on va explorer, et on essaiera de découvrir un jour si la vie est un phénomène très très rare, ou au contraire plus commun.
Et donc on va patienter. Merci beaucoup, Franck Celsis, pour vos explications. Merci beaucoup, bonne journée. Allez, dans un instant, on parle de notre voix avec Raymond Viré.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you a summer wine. Summer.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer.
Je pense qu'elle m'a sauvé la voix.
Elle a cet amour de faire naître l'autre.
Elle pose le geste de chanter comme un geste de vie.
Elle a une façon d'essayer de visualiser ce qui se passe à l'intérieur du corps.
Elle repère quand il y a une note qui coince et tout. Une question, deux questions, et paf, elle tombe pile sur le problème. Ça m'a quand même un peu sidéré.
Voilà, Raymonde Viret, ce sont vos élèves hein, qu'on a entendus à l'instant, oui, parmi lesquels François Morel, Jacques Weber, oui, voilà, extrait d'un documentaire Hymne à la voix, un film d'Alexandra Metero, et vous, de votre côté, vous publiez Trouver votre voix chez Albin Michel, alors préfacé par Maxime Le Forestier et Jacques Weber, et postfacé par François Morel, parce que vous avez tellement d'élèves
je suis gâté,
qui ont envie d'écrire qu'il vraiment a fallu faire tous ces arrangements.
Ben oui, bien sûr.
C'est ça. Hein.
Ah bah oui, je me sépare pas de mes trois mousquetaires.
Bah oui, il est pas rancunier, Maxime Le Forestier, quand même, parce que la première chose que vous lui dites lorsque vous le rencontrez, c'est qu'il n'a jamais su chanter.
Oui, je le raconte au Café de la Danse. Benoît Dorémy, c'était en concert et il y avait Arthur Le Forestier, son père, sa mère étaient là. Et alors à la sortie du concert, je dis à Maxime... Votre fils me sort un contrut depuis quelques jours, etc. Elle me dit, oui, je l'ai entendu, effectivement, mais ce contrut était fortissimo, j'aurais bien aimé l'entendre en pianissimo. Alors là, vous n'y connaissez rien du tout, il faut au moins 15 ans pour avoir faire sortir un contrut en pianissimo. Alors, de toute façon, vous n'avez jamais su chanter. Alors...
Voilà. Et depuis, il a décidé de prendre des cours avec vous, finalement.
Mais ça faisait longtemps qu'il voulait en prendre, mais il n'osait pas. En fin de compte, Maxime avait eu sa voix placée il y a 45 ans par Jean Lumière. Ça vous dit rien, Jean Lumière, c'est un chanteur à voix qui était très célèbre. Ouais. Et qu'il lui avait appris à descendre son diaphragme. Et donc, c'est revenu très vite chez moi.
Ouais. Irène Théry, est-ce que vous avez perdu votre voix, vous, pendant les discussions autour du débat du mariage pour tous, ou
non,
pas
non, je l'ai plutôt gagné, je dirais, à ce moment-là.
Ouais.
Parce qu'il y avait effectivement peut-être un appel vers des voix. Il y avait peut-être trop peu de voix à l'époque. Mm-hmm. Et donc, voilà, je dirais ça. Mais je trouve formidable ce que vous racontez. Moi, un contre de pianissimo, ça me...
J'ai un souvenir de toi, Irène, ayant perdu ta voix au retour des manifestations de soutien au mariage.
Ah, peut-être, oui.
Mais alors, qui sont vos élèves, justement, Raymonde Viret ? Parce que ce ne sont pas que des chanteurs. Hein.
Pas du tout, non. Beaucoup de comédiens, ouais, justement, qui sortent du Conservatoire National de Musique et d'Art Dramatique et qui n'ont pas la voix en place. Ils ont appris à jouer, et ils ne savent absolument pas poser leur voix. Ouais. Donc c'est le cas de Pauline Chevillé, ça c'est un cas particulier, cette fille de 3 ans de conservatoire, donc elle aurait dû rentrer à la Comédie Française, elle n'avait pas la voix en place. Alors ses professeurs l'ont dit, mais c'est tout à fait superflu, c'est-à-dire descendre son diaphragme, c'était superflu pour un prof de conservatoire national. Ouais. Je trouve ça ahurissant, j'en ai plein comme ça.
Ouais.
Plein
vous avez beaucoup de voix blessées hein, qui viennent vous voir. Hein.
Bah, oui, commencer par Jacques Weber, qui lui a donc... a perdu sa voix dans Cyrano, quand il jouait Cyrano, et il a cassé sa voix sur un mot, sur le mot coquin. Il a fait coquin. Il a remonté le diaphragme au lieu de le descendre, donc la voix est partie. Le lendemain, il perdait une demi-phrase, et le surlendemain, une phrase complète, donc il a arrêté. Et ça a été pour lui un drame épouvantable. Et il a cherché. ORL, professeur de chant, médecin, que sais-je, orthophoniste, et tous lui disaient, vous savez, c'est dans la tête.
Oui.
Ne sachant pas quoi répondre à cet homme. Et quand il est arrivé chez moi, c'est moi qui j'avais un trac abominable devant cet homme. dans ma petite pièce, cette carrure, ce charisme, ce timbre magnifique quand même. Oui. Et en fin de compte, comme un petit enfant, comme un débutant, il était chez moi avec d'une humilité, d'une simplicité. On a retravaillé pendant des années et pour remettre son diaphragme en bas, le redescendre et jouer dessus. Et ça a été... C'est des grands moments. Vous savez, plus ils sont grands, plus ils sont de grandes vedettes, plus ils sont simples chez moi. Oui. François Morel aussi est un
Alors François Morel vient vous voir régulièrement aussi, c'est ça?
Oui, ouais. quand il est à Paris, enfin, quand il est dans la région. Mais
Est-ce que c'est une science exacte, justement, tout ce qui tourne autour de la voix?
Qu'est-ce qu'on entend par science exacte?
En tout cas, peut-être des idées qui peuvent se reproduire et qui donnent des résultats identiques.
C'est-à-dire que avant tout, il faut poser sa voix. Mm-hmm. Point. Ce que le bébé a fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il sort du ventre de sa mère, il pose sa voix. Et nous, jusqu'à 6-7 ans, cette respiration, la respiration dite costo-diaphragmatique ou abdominale.
Ah, c'est joli comme mot. Ah non, on aime bien.
Costo-diaphragmatique.
Ah oui, ça le fait. Ouais.
Bon, d'accord, si vous voulez. Les enfants l'ont jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans.
Vous voulez dire que le diaphragme est descendu au départ.
Il respire normalement. Et à partir de 6-7 ans, la soi-disant âge de raison, l'environnement, chômage, divorce, toutes ces choses-là, l'enfant a de la respiration dite abdominale ou costo-diaphragmatique.
Ah oui, j'aime beaucoup.
Il passe à la respiration en costale supérieure. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre son diaphragme, il va respirer au sommet des poumons. Mmh. Et là, c'est le drame. C'est le drame, donc on arrive à des asthmatiques, à des maladies qui font que... Vous voulez me dire quelque chose?
J'ai envie de vous faire écouter Marguerite, parce que justement, ça m'évoque ces problèmes, quand ça déraille. C'est ça.
Je n'ai pas vu le film.
On va écouter l'extrait, Raymond Duré, vous le commenterez juste après.
Approchez, chère baronne, n'ayez pas peur. Maintenant, vous êtes face au gouffre. Et tout là-bas, il y a une voix qui nous appelle. Une voix qui a besoin d'aide. Votre voix. Vous l'entendez? Approchez la main, n'ayez pas peur. Allez-y. Plus large les mouvements, plus large. Et relâchez bien le bassin. Voilà, on relâche, on relâche. Quand on chante, c'est tout le corps qui résonne, des orteils jusqu'au périnée. Serrez bien le périnée d'ailleurs. Allez, comme les putes chinoises. Elles sont très fortes pour ça. Votre mari appréciera. Allez.
Voilà, Catherine Fromm, Marguerite, Raymond Duré, vous avez tremblé en entendant l'extrait.
Oui, parce qu'en fin de compte, elle n'a pas écouté, elle n'a pas pu reproduire parce qu'elle n'a pas écouté.
Ouais. Mais vous avez des élèves comme ça ou pas?
Oui, au départ, oui. J'en ai deux comédiens. Et
c'est récupérable?
Oui, bien sûr que ils sont comédiens déjà. Donc, c'est très très difficile et très éprouvant et pour l'élève et pour moi aussi, c'est très difficile. Je lui fais un do, il fait un sol, un mi, on ne sait pas. Mais ça, pour rien, ça va bien. Ça va beaucoup mieux même. Ouais. Oui, je l'ai vu hier, c'était beaucoup mieux. Mm-hmm. Mais c'était effrayant. Alors donc on en était, je ne sais pas.
Quand ça déraille, quoi, en fait, ce qui se passe quand...
Mais quand ça déraille, ou c'est comme Jacques Weber, c'est le diaphragme qui remonte. Mm. Alors il chante. À partir du moment où vous avez perdu votre appui diaphragmatique, vous savez, votre voix est en dessous. Bon, si vous allez chanter dans votre gorge ou avec le nez, on n'a plus d'appui. Donc, tout est permis, toutes les sorties sont permises.
Vous dites, on doit descendre son diaphragme.
Bien sûr.
En pensant qu'on est aux toilettes, constipé depuis 15 jours.
Absolument.
Et qu'on pousse pour arriver à un résultat.
Oui, c'est la phase de l'expulsion du bébé. J'ouvre, je pousse, je pose. Je soulève mon voile du palais. J'ouvre ma cage, mais la cage, elle s'ouvre puisque les poumons se remplissent d'air. Les poumons sont attachés aux côtes. Donc, la cage s'ouvre. Je pousse le diaphragme, vous savez où il est situé?
Sous les poumons?
Il s'attache au sternum, dernière côte, et deuxième et troisième vertèbre lombaire. Des fois, première et quatrième. Enfin, non, mais en tout cas, c'est aux vertèbres lombaires. Bon, alors, ce diaphragme, il faut qu'il descende. Et non pas qu'il rentre
tout le studio s'exerce.
Pour sortir un son. Il faut qu'il descende.
Ouais. Raymond Viré, on va trouver tous ces conseils dans ce livre. Trouvez votre voix, parce que vraiment tout est détaillé avec également l'histoire de vos élèves que vous racontez. C'est chez Albin Michel. Oui. Et j'aimerais vraiment vous réinviter. On vous réinvitera dans l'émission, c'est sûr. Mais oui, on n'a pas eu assez de temps.
Là,
exactement.
Donc
on n'a pas eu assez de temps.
Vraiment rien dit.
Avec François Morel. On viendra avec François Morel.
Et Jacques Weber et Maxime.
On invite tout le monde. Exactement.
Là, ça sera formidable.
Allez, on lance les invitations. Merci à vous. À très bientôt.